fera la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas, en bas, en bas. Tu mangeras la graisse et non les miettes, héritier, héritier de la prééminence. Tu mangeras la graisse et non les miettes, héritier, héritier de la prééminence.
Suivre est une production de la Maison de la Destinée, église évangélique dirigée par le pasteur Georges Amoako Pimpé, 6 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Pour d'autres informations, contactez-nous au 225 22 49 31 47. Notre adresse électronique est houseofdestiny2004@yahoo.fr. Visitez notre site web au www.eglisesansmur.com. Merci. Et bonne écoute.
We bow down and confess you are Lord in this place. We bow down and confess you are Lord in this place. You are whole. I your face I seek, yeah, in the presence of your light. we bow down. We bow down.
And confess
you are
Lord
in this place, yeah.
In this place,
we bow down. Oh,
we
yeah.
bow down.
We confess Jesus.
And confess
you are our Lord.
You
qu'on peut ovationner le Seigneur, pousser des cris de joie, dire Alléluia pour sa bonté, dire Alléluia pour sa fidélité, dire Alléluia pour sa royauté, dire Alléluia pour sa divinité, dire Alléluia pour sa seigneurie. Il est le seul qui mérite la gloire, il est le seul qui mérite l'honneur, il est le seul qui mérite l'élévation. Crie Alléluia pour ovationner ton Père, ton Créateur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de vous voir nombreux. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer notre Dieu. Alléluia. Et avant même d'introduire mon message, je souhaiterais rendre hommage à un homme qui, pour moi, est un repère, un référentiel dans cette nation. La première fois que j'ai écouté cet homme, c'était à Yopougon, au stade de Jesse Jackson. Ça fait près de 8 ans où il parlait de l'entorse divine. Ce jour-là, je ne croyais plus en l'avenir. Et lorsqu'il a dit que Dieu peut faire une exception, Dieu peut faire une entorse à la règle ordinaire, aux considérations humaines, et que Dieu peut nous tirer de là où nous sommes pour nous changer. Ce jour-là, j'ai commencé à croire que ma vie avait un sens. Et ce jour-là, j'étais avec un ami, j'ai dit, voici des serviteurs de Dieu qu'on ne peut pas oublier, qu'on entend et on est transformé par leurs paroles. Je voudrais qu'ensemble on rende hommage au révérend Georges Amwako qui nous fait honneur aujourd'hui de célébrer ce culte. Que le nom du Seigneur soit béni pour sa vie, pour son épouse et pour toute sa famille. Je salue aussi la présence de mon aîné, de mon grand frère, le pasteur de l'église des jeunes adultes. J'aime bien l'écouter. Et le dimanche dernier, il nous a hautement bénis. On ne cessait de m'appeler pour me dire, mais qui est ce serviteur de Dieu qui a intervenu sur la stabilité dans l'instabilité? Je voudrais qu'on acclame le Seigneur aussi pour le pasteur Olivier. Et dit merci au Seigneur pour un autre pasteur avec qui je travaille, avec qui je m'entends, le pasteur Germain Koufi. Il m'a tendu la main, il a facilité mon intégration au sein de la jeunesse. Je crois que lui aussi, il mérite d'être honoré. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous allons parler d'un thème qui me tient hautement à cœur, c'est celui de l'attente divine. Dis à ton voisin, l'attente divine. Vous savez, dans la vie, et le constat est fait jour après jour, partout où il y a le chaos, il y a une attente divine de restauration. Partout où il y a la réussite, il y a une attente divine de succession. Dans les deux cas, ce qui est garanti et sûr, c'est que à chaque génération de nos vies, Dieu manifeste une attente. À chaque époque, à chaque tournant de l'histoire, il y a toujours ce grand Dieu qui manifeste une attente. Il a dit lui-même dans la Bible qu'il est le Dieu de génération en génération. Alléluia. Et lorsqu'une génération monte, une génération s'apprête à s'effacer de la scène internationale, Dieu suscite une nouvelle génération. Et dans l'attente divine, Dieu se porte beaucoup sur la jeunesse. Vous savez, dans l'histoire des nations, dans la construction de l'histoire des nations, la jeunesse a joué un rôle prépondérant. La jeunesse a joué un rôle décisif. Dis à ton voisin, j'aime ma jeunesse. C'est pour cela, aujourd'hui, je voudrais que tu suives attentivement, paragraphe après paragraphe, ce message. Parce que je suis certain d'une chose, si tu es jeune et que tu m'entends, quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu es jeune et que tu m'écoutes, quelque chose d'inoubliable va se produire dans ta vie. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Nombres chapitre 11, le verset 28, la Bible dit « Josué, serviteur de l'Éternel, dès sa jeunesse. » Lorsque nous prenons le livre de Psaumes, chapitre 71, verset 5, la Bible dit,
David se confie en l'Éternel dès sa jeunesse. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 8, le verset 21, Dieu s'exclame et il parle à la création. Lorsqu'il a fini d'envoyer un déluge, lorsqu'il se préparait à envoyer un déluge dans l'humanité, la Bible dit que Dieu a porté une réflexion qui est la suivante. Il dit « Le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. » Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Dieu veut dire que le cœur de l'homme se forme dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse, l'homme commence à asseoir les fondements qui vont faire sa vie. Dès sa jeunesse, l'homme commence à mettre en place la base de son orientation. Si tu rates ta jeunesse, tu es en train de rater ta vie. Si tu rates ta jeunesse, tu es en train de mettre en péril ton avenir. Si tu rates ta jeunesse, tu es en train de gâcher l'avenir d'une nation. Alléluia. C'est pour cela que la jeunesse est un maillon essentiel dans l'enjeu de l'humanité. Étudiez les nations. Chaque nation a un projet sensible pour la jeunesse. Parce que la jeunesse d'une nation est l'avenir, je le disais tantôt. Et ce matin, il y a des autorités, des éminents serviteurs de Dieu, des personnes qui vont occuper de hautes responsabilités, des personnes qui vont prendre des décisions pour l'avenir de cette nation, sont assis, sont devant leur télé, sont devant leur ordinateur pour observer, pour écouter le message de Dieu. Et c'est une bonne chose. Alléluia. Paul, parlant toujours de la jeunesse, a dit un jour à Timothée que personne méprise ta jeunesse. Écoutez, cette phrase a un double sens. D'abord, lorsque Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, Paul veut dire à Timothée, toi-même ne méprise pas ta jeunesse. Si Timothée méprise sa jeunesse, les autres vont mépriser sa jeunesse. Parce qu'à la vérité, tout le monde nous voit tel que nous nous voyons nous-mêmes. Si tu te vois comme un inconscient, les autres te verront comme un inconscient. Si tu te vois comme quelqu'un de responsable, de mature, les autres seront obligés de te voir comme quelqu'un de mature et de responsable. Si tu te vois comme un jeune décomplexé, désorienté, la société va te voir comme un jeune désorienté. C'est pour cela que Paul a dit, et il a insisté sur cette parole, que personne ne méprise ta jeunesse. J'ai envie de dire aux jeunes gens qui nous écoutent ce matin, que personne ne méprise ta jeunesse. Qu'est-ce que c'est que mépriser sa jeunesse? Mépriser sa jeunesse, c'est d'en faire n'importe quoi. Pour beaucoup de personnes, être jeune, c'est être rebelle. Pour beaucoup d'idéologues, être jeune, ça s'assimile à l'immoralité. Pour beaucoup de personnes, être jeune, c'est être irresponsable. Mais la Bible témoigne, chapitre après chapitre, livre après livre, que des jeunes ont démontré à l'humanité qu'on peut être jeune et responsable, qu'on peut être jeune et intègre, qu'on peut être jeune et saint devant Dieu, qu'on peut être jeune et consciencieux. Alléluia. Et ce matin, Dieu voudra que tu partes d'ici avec cette idée que la jeunesse est l'attente de Dieu. Ma prière, c'est que les jeunes de la maison de la destinée démontrent à Dieu, à leur famille, à leurs parents, à leur nation, qu'ils sont prêts à relever les défis de demain. Ma prière, c'est que la jeunesse de cette communauté la jeunesse de cette génération apporte un message fort à l'humanité pour lui dire que nous voulons quelque chose de nouveau. Alléluia. Donc, mépriser sa jeunesse, c'est un scandale devant Dieu. Mépriser sa jeunesse, c'est quelque chose qui étonne Dieu. Parce que la jeunesse est plus importante qu'un gisement de pétrole. Lorsqu'il y a une jeunesse consciencieuse dans une nation, je peux vous dire que cette nation est partie pour connaître une croissance, une émergence importante. Lorsque j'ai cité l'exemple de Josué tout à l'heure, permettez-moi que j'introduise. Josué, à la sortie de l'Égypte, était inconnu. Personne ne connaissait Josué. Personne ne prêtait attention à Josué. Personne ne savait même qu'il y avait quelqu'un qui allait sortir bientôt, qui s'appelait Josué. Mais en plein désert, pendant que le peuple d'Israël faisait face aux Amalécites, pendant que le peuple d'Israël était face à un grand défi, la Bible dit que Moïse a appelé Josué. Il a dit à Josué, « Je monte sur la montagne, toi, va au front. » Et ce jeune Josué va confondre tout le calcul des armées étrangères. Avec Moïse sur la colline et Josué sur le terrain, le peuple d'Israël a remporté la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Chaque fois qu'il y a eu un tournant décisif, Dieu a suscité la jeunesse. Alléluia. Et l'exemple que nous allons voir est un des exemples de ce que la jeunesse, le jeune, est important aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples, mais je vais en prendre un. Nous allons prendre ensemble nos Bibles. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 24. Nous allons lire les versets 24 à 28. Quand elle l'eut sévré, la Bible parle de Anne, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternera là, devant l'Éternel. Alléluia. Vous savez, le verbe qui m'intéresse, c'est prêter. Je ne sais pas ce que la version anglaise dit, mais je m'attendais à ce qu'elle dise. Je suis venu le donner à l'Éternel. Peut-être que donner n'avait pas tout le sens de ce que Anne voulait exprimer à Élie. Elle va dire à Élie, lorsque je te semblais ivre, tu te rappelles, il y a un an de cela, ou bien il y a des années de cela, j'ai prié l'Éternel, j'ai pris une décision avec Dieu. Le résultat de cette décision, voici cet enfant. La Bible dit, cet enfant était encore tout jeune. Elle est venue faire une transaction spirituelle. Elle est venue prêter l'enfant à l'Éternel. Normalement, quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un, ce que tu as prêté, tu ne l'as pas vraiment perdu. Alléluia. Prêter est un investissement. Prêter est une action qui a des retombées futures. Est-ce qu'on se suit? Dis amen avec moi. Prêter, c'est quelque chose de symbolique. Ce jour-là, Anne a prêté son jeune enfant à l'Éternel. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsqu'elle est ressortie du temple de l'Éternel, elle n'était plus avec cet enfant. Ce jeune enfant va rester dans la maison de l'Éternel. Dis à ton voisin, un jeune prêté. Gloire à Jésus-Christ. Samuel est le prototype de ce que doit être la jeunesse d'aujourd'hui. Prêté à l'Éternel. Permettez-moi de vous situer le contexte de cette histoire. Dans le temps d'Élie, il n'y avait pas de roi. Au temps d'Élie, pour diriger le peuple, il y avait un sacrificateur qui parlait de la part, il parlait des hommes à Dieu. Il plaidait la cause des hommes vers Dieu. Et ce même personnage était un prophète. Il transmettait le message de Dieu aux hommes. Il était le centre de la société. Sans cet homme, la société est déséquilibrée. S'il n'y avait pas ce juge, la société était désorientée. Et c'est ce que représentait Élie. Mais le problème, c'est que Élie vieillissait. Élie avançait en âge et les propres enfants d'Élie bafouaient Dieu. Ils étaient en boîte de nuit. Ils étaient au Shanghai, pour employer un langage typiquement ivoirien. Ils étaient dans la société déshonorant leur créateur, déshonorant leur père, déshonorant la société. Et Dieu, en ce moment-là, avait une attente. Dieu pensait à une relève. Dieu pensait à quelqu'un qui allait poursuivre l'action pour que la société reste équilibrée. Quelqu'un qui va parler des hommes à Dieu et qui va parler de Dieu aux hommes. Et Dieu a vu en Samuel l'alternative divine. Dieu a vu en Samuel la relève, la garantie de la société. Et je suis convaincu que Dieu te voit, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, comme étant la relève de ta nation, la relève de ta famille, la relève de ta région, la relève de ta famille. Alléluia! Et lorsque Samuel va rentrer dans cette vie, il va demeurer dans cette vie. La Bible déclare qu'un jour, la parole de Dieu se faisait rare, au chapitre 3. Et Dieu va appeler Samuel. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu va t'appeler aujourd'hui. Lorsque Dieu va appeler Samuel, en temps normal, si Dieu devait parler à quelqu'un, il devait d'abord parler à Élie. Et puis Élie parle à Samuel. Mais ce jour-là, Dieu va briser le protocole. Si vous suivez bien dans l'histoire du peuple d'Israël, si le père est là, et que le Fils est encore vivant. Si Dieu veut parler à quelqu'un, il parle d'abord au Père. Lorsqu'il s'agissait de sacrifier Isaac, une parenthèse, Dieu a parlé à Abraham et pas à Isaac. Donc lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions importantes de la famille, Dieu parlait au Père et pas au Fils. Mais ce jour-là, exceptionnellement, Dieu va parler directement à Élie et à Samuel du moins. Dieu, en s'adressant à Samuel, est en train de responsabiliser Samuel. Dieu, en s'adressant à toi, te responsabilise. Alléluia. Et lorsque Dieu te responsabilise, il te fait comprendre que ta jeunesse doit l'honorer. Et Samuel a répondu à l'attente de Dieu. Samuel servait Dieu, mais il ne connaissait pas encore Dieu. Samuel allait à l'église, mais il ne connaissait pas encore Dieu. Samuel suivait Élie, mais il ne connaissait pas encore le Dieu d'Élie. Ce jour-là, Samuel va commencer à connaître Dieu. Honorable enfant de Dieu. Dieu veut nous interpeller aujourd'hui. Dieu veut parler à nos cœurs aujourd'hui. L'humanité est dans l'attente. Les sociétés d'aujourd'hui sont dans l'attente d'une génération nouvelle qui va apporter un sens nouveau, qui va apporter une nouvelle orientation, qui va préparer la relève de ce qui se fait déjà. Et cette relève, c'est toi. Et à l'image de Samuel, Dieu t'appelle. À l'image de Samuel, Dieu te responsabilise. À l'image de Samuel, Dieu veut compter sur toi. À l'image de Samuel, Dieu croit en toi. Il revient à chacun de nous de comprendre que si nous ne répondons pas favorablement à l'appel de Dieu, si nous ne répondons pas favorablement à la responsabilité que Dieu veut nous donner, nous ne sommes pas en train de gâcher seulement une vie. Nous mettons en péril une génération. Et si le diable a une stratégie, lorsqu'il veut étouffer une nation, il commence à brouiller et à désorienter la jeunesse. C'est pour cela, ce matin, Dieu veut parler à la jeunesse. Alléluia. Si une famille a quelque chose de plus merveilleux, c'est la jeunesse. Alléluia. Permettez-moi de vous rendre un petit témoignage. J'ai grandi dans la commune du Plateau. Et lorsque j'ai eu mon entrée en sixième, je croyais que j'étais devenu un Superman. J'allais plus porter les culottes. C'est merveilleux, les pantalons, les jeans. Et j'ai commencé à vivre une vie particulière. Et j'avais quatre amis. On nous appelait les quatre mousquetaires dans le temps. Il y avait un jeune du nord, deux de l'ouest, et j'étais le seul du centre. Et nous avons commencé à vivre une vie de débauche. On a commencé à avoir des copines par-ci, par-là. Dieu merci, on n'était pas musclés, mais on aimait faire le malin. Quelques années après, quand j'ai rencontré le Seigneur, mon ami du Nord, musulman, c'est lui qui m'a évangélisé. Il m'a dit, mon frère Agénor, tu es le plus idiot parmi nous quatre. Moi, je fais mes conneries. Vendredi, je vais à la mosquée. L'autre, il fait ses conneries. Dimanche, il va à la messe. Tu es le seul idiot parmi nous. Mon frère, ressaisis-toi. Voici l'évangile qui m'a converti. Je suis rentré à la maison à réfléchir. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Alléluia. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, mon voisin, heureusement, était chrétien. C'est lui qui m'a fait accepter le Seigneur. Le premier jour que je suis arrivé à l'église, mes amis, je ne savais pas ce que c'est que un culte, une prière, adoration. Mais j'ai découvert ça de façon merveilleuse. J'étais ébloui. Je voyais des gens qui criaient. Église baptiste, c'était charismatique. Mais ce n'est pas ça qui m'a fasciné. J'ai vu, pendant que le pasteur prêchait, un homme était saisi, c'était un esprit qui se manifestait au travers de lui. Et il avançait avec violence sur le prédicateur. Il voulait porter main au prédicateur parce qu'on dirait que le démon qui était en lui était gêné. Et j'étais grand de taille. J'ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça ici. J'ai sauté sur le monsieur. Je l'ai immobilisé au sol. On l'a amené en délivrance. Et j'ai vu le monsieur avec une violence exceptionnel. Je voyais le démon parler au travers de lui. Ça m'a étonné. Je ne savais pas qu'il y avait ces réalités-là qui existaient. Mes amis, j'ai commencé à donner sérieusement ma vie au Seigneur. C'était devenu très sérieux. Mais là où je veux attirer votre attention, nous étions quatre, je le disais. 10 ans après, je continue toujours dans ma voie du Seigneur. Mon ami du Nord est mort du VIH-Sida. Mon ami de l'Ouest a fini par me suivre. Aujourd'hui, il est pasteur à Yopougon. Il y a encore un dont je n'ai pas les nouvelles qui est rescapé dans la nature. Comme David disait, c'est tellement un rescapé. Mais lorsque mon ami du Nord est mort du VIH-Sida, je parle aux jeunes ce matin. J'ai adoré le Seigneur, pas pour sa mort, parce que j'aurais pu moi aussi vivre ce qu'il a vécu. Il est mort avant d'avoir 26 ans. Mes amis, ça m'a donné des conseils. C'est pour cela que ce matin, lorsque Dieu te parle, toi jeune, ne considère pas ta jeunesse comme étant une propriété privée que tout le monde menace. Tout le monde t'empêche de vivre ta jeunesse. Non, vois ta jeunesse comme un outil de Dieu. Alléluia. Vois ta jeunesse comme une bénédiction divine pour ta famille. Vois ta jeunesse comme une bénédiction divine pour ton entourage. Et c'est comme ça que tu vas garantir ton avenir. Alléluia. Si nous prenons nos Bibles encore dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 20. Jésus a rencontré un jeune homme riche. Son histoire m'a marqué. Ce jeune riche a rencontré Jésus. Et il a dit à Jésus qu'il est intéressé pour aller au ciel, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui a dit, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, obéis à tes parents, sois soumis. Il a dit une phrase qui m'intéresse, Marc 10, verset 20. Il a dit à Jésus, j'obéis à ces choses dès ma jeunesse. Oh, c'est merveilleux. Il n'était pas riche par hasard. Il n'était pas prospère par hasard. Dès sa jeunesse, il a commencé à suivre les principes de Dieu. Alléluia. Le seul problème de ce jeune, c'est qu'il menait sa foi de façon privée. Ça le bénissait lui seul, mais ça ne profitait pas aux autres. Alors Jésus va appuyer sur l'accélérateur. Alléluia. Il va lui dire, vends ce que tu as de plus cher et suis-moi. Viens ensemble, engage-toi dans l'œuvre. Engage-toi, engage ta force, engage ton zèle, engage ton énergie, engage ton dévouement au service de Dieu. C'est là que beaucoup de jeunes disent trop, c'est trop, alors que c'est là qu'il doit avancer. Parce que la garantie de tout ce que nous avons, c'est Dieu. La Bible dit, il n'y a pas quelque chose que nous ayons reçu, qui nous a été accordé par Dieu. Tout ce que vous avez, tout ce que nous possédons, est une provision divine. Je veux parler aux jeunes qui peut-être viennent à l'église, mais qui ne trouvent pas nécessaire de s'engager comme le jeune riche. Je veux leur dire, engagez-vous, investissez-vous pleinement et totalement. Peu importe le lieu où vous êtes, peu importe votre âge, peu importe votre race, peu importe votre couleur, peu importe vos expériences passées, Dieu a besoin de toi. C'est là le sens d'une vie accomplie. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît.
Gloire à l'agneau.
Le message que vous venez de suivre, bien entendu, était l'attente divine pour la jeunesse. Étant jeune, il faut que nous donnions nos vies, nos âmes, nos cœurs, nos pensées à Jésus-Christ. Étant jeune, il faut que nous soyons des maillons essentiels pour notre société. Étant jeune, il faut que nous ayons la vie de Jésus en nous par nos actes, par nos manières de parler, par nos manières de penser. Parce qu'en Jésus, c'est la royauté et nous devons demeurer rois en Jésus. L'attente divine, c'est Dieu a besoin de nous. Dieu nous attend et il veut que nous lui donnons cette jeunesse que nous avons. Et que Dieu nous bénisse.